France Inter.
Bonjour la Terre au carré, j'ai juste voilà, une émotion, parce que j'ai un coup de gueule, je ne sais pas où à qui faire. Je sors de chez moi, de mon lotissement, je vois deux chiens, donc deux gros mastocs qui sont au milieu de la rue, là à l'endroit où on va se promener avec les enfants. Et je tombe devant un sanglier qui fuit, il tourne dans une impasse, on sent sur son visage qu'il n'en peut plus, c'est peut-être de l'anthropomorphisme, mais vraiment ça se sentait quoi. Et il arrive à retrouver un passage pour rentrer dans un champ, et il est parti, et je voilà, coup de gueule, enfin, les chasseurs quoi, je ne peux plus, je sature. De chez moi, je les entends, quand je suis sur mon canapé avec mon thé, je les entends. Je comprends pas la chasse, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Bon bah sur ce, bonne journée quand même et bonne émission, merci.
Bonjour à tous, c'est Sylvie des Yvelines. Nous sommes un collectif qui travaillons avec des associations pour la protection des forêts d'Île-de-France et nous voulions nous faire l'écho des dégâts croissants que subissent nos forêts sous la forte pression de la filière bois. Coupe rase encore trop souvent à déplorer, coupe importante de jeunes arbres qu'on ne laisse pas le temps de vieillir, altération des sols, ce qui est très préjudiciable à la reprise des nouveaux plants, une grande fragilité aux tempêtes dont on voit qu'elles ne sont plus une exception. Le réchauffement climatique s'accélère, nos forêts deviennent des espaces très clairsemés. D'après des données scientifiques, elles ne remplissent plus de façon suffisante leur rôle d'absorption du carbone. Laissons vivre nos forêts pour le merveilleux écosystème qu'elles représentent et pour tous les services rendus irremplaçables. Mobilisons-nous quand nous le pouvons pour une sylviculture plus douce. Merci beaucoup pour vos émissions. À bientôt.
Bonjour, Jocelyne de Bressuire. Je vous propose un festival du film du voyage à vélo organisé par l'association Allons à vélo de Bressuire dans les Deux-Sèvres qui se déroulera les 5, 6 et 7 avril 2024. Faites du vélo, c'est la liberté. À bientôt.
Allô, bonjour, je suis Elisa de Montpellier. Vous savez, celle qui fait partie des décroissants. La décroissance, moi, c'est mon truc. Vous m'avez fait un immense plaisir avec votre émission sur la décroissance. Effectivement, nos sociétés occidentales du toujours plus doivent effectivement se lancer sur la décroissance à fond pour permettre à ceux qui, eux, sont dans la misère, dans la détresse, dans l'impossibilité de se nourrir, peut-être de se loger, de s'habiller, de, eux, à leur tour, pouvoir vivre, se développer. Et puis alors là, en plus, vous nous mettez la journée sans smartphone, mais quel plaisir! Moi, j'ai pas de smartphone, c'est une volonté, c'est un choix. J'ai un petit téléphone sur lequel on appuie sur les petites touches. Et jamais de la vie le smartphone, les gens ils ont une main occupée par le smartphone, c'est une horreur, on communique plus. Bon, merci Mathieu de tous ces thèmes qui me font tellement plaisir. Très bonne journée, très bonne information et encore merci.
Merci Elisa Décroissante, on vous adore. Merci de nous avoir laissé ce message sur le répondeur au 01 56 40 45 45. C'est une histoire comme on les aime. Alors qu'il promenait son chien un matin avant d'aller travailler, Damien Boschetto, 23 ans à l'époque, paléontologue amateur et habitant de Montoulier dans l'Hérault, tombe sur un os qui attire son attention sur le flanc d'une falaise effondrée. Les premières fouilles révèlent que cet os appartient à un squelette quasiment complet de dinosaures de grande taille, un titanosaure, ce qui n'est pas anormal dans cette région, qui regorge de fossiles de ce genre. Mais la nouveauté réside dans le fait que les os du squelette ont été retrouvés en connexion total, une découverte très rare. Après un long travail d'analyse, la découverte de ce dinosaure a été révélée au public en février dernier. Et c'est l'occasion de vous raconter cette histoire exceptionnelle en détail cet après-midi dans la Terre au carré. Et avec nous justement pour en discuter, le découvreur de ce titanosaure. Bonjour Damien Boschetto.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes donc paléontologue amateur, membre de l'association culturelle, archéologique et paléontologique de Cruzy. Et vous êtes avec nous en duplex de France Bleu Hérault. On se retrouve dans un instant. Avec nous en studio Thierry Tortosa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue également, conservateur de la réserve naturelle de Saint-Victoire et collaborateur scientifique de la CAP de Cruzy. Et puis enfin, nous sommes en duplex de France Bleu Poitou avec vous, Géraldine Garcia. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes paléontologue également, responsable des collections scientifiques universitaire de l'Université de Poitiers, enseignante-chercheuse au sein du laboratoire Palévo-Prime du CNRS. On va donc se retrouver dans un instant. Vous allez nous dire tout ce que vous savez sur ce nouveau dinosaure qui a vécu il y a 70 millions d'années et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au carré et sur nos réseaux sociaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et on reste dans l'Hérault avec d'autres fossiles encore plus anciens, 470 millions d'années, un gisement dit exceptionnel qui permet d'en savoir savoir plus sur la vie à cette période charnière de l'histoire de la Terre.
Qui dit mieux ? Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Chantal Lemontagnier. Loïs Moreau nous accompagne à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il faut s'imaginer, à la fin du Crétacé, à peu près 70 millions d'années, quand vivaient les dinosaures que nous recherchons ici, le paysage était totalement différent. Puisque le climat n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, c'était un climat plus chaud, avec vraisemblablement des alternances de saisons sèches et de saisons humides pendant lesquelles se concentraient les précipitations.
Ça, c'était en 2009, le paléontologue Éric Buffeteau sur le site de Cruzy dans l'Hérault, où a été découvert, donc il y a 2 ans, le squelette exceptionnel d'un titanosaure. Damien Boschetto, racontez-nous cette histoire qui est la vôtre et qui commence donc comme avec la découverte de la grotte de Lascaux lors d'une promenade avec votre chien. C'était donc en 2022, un matin avant d'aller au boulot, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Alors c'est vrai que j'ai pour habitude, avant d'aller au travail, de promener mon chien, forcément.
Ouais.
Puis c'est une région qui est très très riche, avec beaucoup d'affleurements correspondant à cette époque-là, hein, donc au Crétacé supérieur. Donc c'est vrai qu'en promenant, ben, j'aime bien aller dans ces zones où on peut potentiellement trouver des choses. Et puis là, ce beau matin, un éboulement récent en bord de falaise avait mis à jour donc des premiers ossements qui appartenaient à un grand dinosaure herbivore.
Donc vous voyez dépasser un os, ça commence comme ça l'histoire ?
C'est ça. En bord de falaise, en bas, il y a donc un éboulis, si vous voulez, avec plusieurs sections d'os. Donc à ce moment-là, on voit des sections d'os, des os coupés. C'est là qu'on s'aperçoit en fait qu'il s'agit de fossiles, d'os de dinosaures. Donc à partir de là, la priorité, c'est de voir et observer d'où ces ossements sont tombés de la falaise, en fait. Et une fois qu'on a repéré cette zone, créer une fouille stratégique de dessus, en fait, hein, pour récolter toutes les informations.
Alors, il faut dire que le lieu de la découverte n'est pas tout à fait un hasard, hein, parce qu'évidemment, c'est un lieu assez riche en ossements de dinosaures, donc vous n'étiez pas là non plus totalement par hasard. Hein.
C'est ça, tout à fait, ouais. C'est pas tout à fait du hasard, ouais.
Quand on découvre un os comme ça et qu'on entame des fouilles pour en savoir un petit peu plus, parce qu'évidemment, quand vous l'avez vu, cet os, vous êtes dit qu'il pouvait y avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important derrière, hein.
Oui, c'est ça. Puis en général, on trouve des gisements en faisant de la prospection, hein, donc en faisant des promenades. Hein. On trouve beaucoup d'esquilles d'os en surface et en fonction de la quantité d'esquilles qu'on trouve, c'est potentiellement un site intéressant en dessous.
Ouais.
Donc là, forcément, avec une accumulation de fossiles tombés de la falaise assez importante, on s'attend à trouver un gisement qui peut être intéressant en dessous. Effectivement, c'était le cas.
Et donc, comment ça s'organise des fouilles juste après, quand on est comme ça paléontologue amateur? On déclenche donc toute une opération, c'est ça, pour en savoir
plus?
C'est ça,
hein, tout à fait. Bah, l'objectif, c'est de récolter toutes les informations pour mieux comprendre, pour mieux étudier derrière l'aspect scientifique. Donc, dans un premier temps, créer une fouille stratégique, savoir comment est-ce qu'on va fouiller, comment est le pendage, si vous voulez, l'inclinaison du niveau. Il y a aussi l'objectif de relever chacun des fossiles qui est dans la couche, hein, donc pour restituer ça sur un plan, hein, donc pour l'étude scientifique derrière.
Vous avez le cœur qui bat pendant toutes ces journées avant vraiment d'arriver sur le squelette entier. Comment ça se passe?
Oui,
il y a une espèce d'excitation pour vous? C'est la découverte de votre vie?
Oui, alors c'est assez excitant, c'est sûr. Alors trouver des nouveaux os et des nouveaux gisements, c'est toujours extrêmement excitant. Mais c'est vrai que quand on s'aperçoit que les os se suivent les uns après les autres, et puis au fil des mois que c'est interminable et qu'on a vraiment un squelette, enfin même plusieurs squelettes en connexion anatomique, c'est assez incroyable.
Ça veut dire quoi la connexion anatomique alors? Parce que c'est ce qui fait aussi l'aspect exceptionnel de votre découverte. Hein.
C'est ça, oui. Alors si vous voulez, en connexion anatomique, c'est que les os sont encore en place les uns aux autres. Ça implique que l'animal, après sa mort, ait été enfoui avec des tissus mous encore, hein, de la chair, des tendons, des ligaments.
Oui.
Donc tous les os sont en place, le squelette n'a pas bougé, si vous voulez.
Donc ça a permis sa protection.
Hein. Voilà, tout à fait.
Et le fait qu'il soit en qu'il aussi soit, bon
qu'il
état.
Qu'il soit entier, qu'il n'ait pas été désarticulé ensuite.
Quand est-ce que vous arrivez à le dater? Quand est-ce que vous arrivez à dire également que c'est un titanosaure? Comment ça se passe, ça?
Alors rapidement, on voit qu'on a affaire donc à des os de titanosaures. Hein. Les os de bassin sont très caractéristiques, c'est donc les premiers os qu'on a trouvés. Après, pour ce qui est de la période, c'est des études préliminaires, hein, qui ont été faites il y a quelques temps déjà, hein, qui sont datées environ de 72 millions d'années. Hein, donc maintenant, des études plus poussées sur les gisements sont à faire, hein, bien sûr, mais on sait qu'on est dans cette période-là, dans le Crétacé, à la fin du Campanien, début Maastrichtien.
Donc 70 millions d'années, c'est ça à peu près, hein?
Environ, voilà. Ouais. Ça peut être un peu moins, un peu plus. C'est des études à venir sur ce nouveau gisement.
Thierry Tortosa, à partir de quand vous êtes dans la confidence?
Je dirais... assez rapidement, mais pas tout de suite non plus, puisqu'en fait c'est quand même un travail qui se passe sur Cruzy et les environs, donc c'est vraiment l'association qui va fonctionner en toute autonomie. Alors Damien a fait ses découvertes, il y a eu un certain secret autour de des premiers prélèvements, de la localisation du site, mais il est venu vers moi pour commencer à discuter, étant donné que j'étais en collaboration avec l'association, pour me montrer les premières découvertes. Donc on a commencé à échanger depuis plusieurs mois maintenant, et petit à petit, ben, j'ai découvert l'ampleur de la découverte,
ouais.
Et l'intérêt aussi. Alors la motivation de Damien montrait clairement que le squelette était d'un intérêt qui dépassait tout ce qui avait été mis au jour jusqu'à présent sur ce secteur-là.
Ouais.
Et donc j'ai essayé de l'aider à distance au mieux. Et maintenant, bon, on entrera en fonction de l'avancée du dégagement sur l'analyse scientifique.
Damien Boschetto, vous avez attendu 2 ans, c'est ça, avant de l'annoncer vraiment au public, pour le coup? C'est-à-dire qu'il y avait une petite équipe qui était dans la confidence, mais vraiment, la révélation publique, c'était il y a quelques mois, à peine, même pas, hein, quelques semaines.
C'est ça. Alors, beaucoup de monde était au courant, hein, bien sûr, dans le milieu scientifique, les communes et toutes les personnes avec qui on travaille, bien entendu. Mais c'est vrai que pour le grand public, voilà, on n'a pas voulu médiatiser ça de suite, ouais. Tout simplement pour protéger, pour éviter des dégradations ou pillages, étant donné qu'on ne peut pas sécuriser le périmètre.
Ouais.
Donc le temps d'extraire les grosses parties imposantes, si vous voulez, de ces squelettes.
Vous aussi, Géraldine Garcia, vous avez des découvertes de titanosaures à votre actif. On va en parler tout à l'heure, mais celui-là, alors celui donc de Cruzy, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
C'est sûr qu'il est très intéressant déjà par son calage chronologique, par le fait qu'il soit situé entre la limite campano-maastrichtien et sur le fait que c'est un squelette qui est quasi complet, quoi.
Oui,
on a plus souvent des pièces osseuses qui sont désarticulées, qui peuvent être en excellent état de conservation, mais qui sont rarement en connexion anatomique.
Alors Damien Boschetto, pour essayer d'avoir une image de ce dinosaure, à quoi il ressemble vraiment ce squelette ? Alors qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce qui est bien présent ?
Alors, on a actuellement l'intégralité de la colonne vertébrale, donc d'une bonne partie de la queue jusqu'à la moitié du crâne, donc tout ça en connexion anatomique, le bassin complet. Alors, il manque à ce jour quelques membres de cet animal, puisqu'on a plusieurs animaux.
Oui.
À savoir qu'on retrouve des marques de morsures de carnivores, hein, sur certains os de ce squelette, donc de crocodiles et de théropodes de la famille des T-Rex, et qui montrent en fait qu'il a été un petit peu désarticulé probablement. Mais donc voilà, tout le reste est en connexion anatomique de la moitié du crâne jusqu'à la queue. Donc actuellement, on est à quasiment 8 mètres de connexion anatomique pour un animal qui fait environ 10 mètres une fois complet.
Ouais. Et quand est-ce qu'il sera complet d'ailleurs ? Parce que vous continuez les fouilles là, sur place ?
C'est ça, tout à fait. Alors il y a énormément de matériel sur place, donc il y a encore beaucoup à faire. Et on trouve actuellement encore des os qui sont désarticulés. Donc la suite de la queue qui manquait, donc les vertèbres sont à la suite, hein, désarticulées.
Ouais.
Voilà, donc il y a encore quelques années de travail et on commence à trouver énormément de... une faune assez riche, hein, d'autres espèces, hein, bien entendu, qui forment un écosystème assez complet, donc c'est très intéressant.
Et donc cet herbivore, ce grand herbivore, il aurait été attaqué à l'époque par d'autres prédateurs,
hein. Voilà, c'est ça, ce stade, on observe, hein, quelques marques de morsures sur des os, donc ça prouve qu'après sa mort, il a été accessible, hein, quand même, ça a été une source de nourriture importante.
Ouais.
Et qu'ensuite, il y a un deuxième événement qui l'a recouvert rapidement avec des tissus mous.
Et ça pourrait être quoi, ce deuxième événement ?
C'est pareil, donc on est dans des dépôts fluviatiles, donc c'est probablement une crue éclair qui a tué tous ces animaux dans un seul et même épisode,
ouais.
Qui les a stockés dans une zone stratégique. Hein, et donc, pareil, le deuxième événement qui a recouvert ces animaux, probablement une crue éclair encore derrière.
Voilà, et qui a permis donc, quelques 70 millions d'années plus tard, à un jeune homme qui est de 23 ans de tomber donc sur ce squelette de titanosaure. On y revient dans un instant, on va parler également de cet œuf et de ses œufs d'ailleurs de dinosaures en général. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr.
Chaud au ciel, fatin s'envoyer comme une meuf du haut ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Je viens d'encaisser ma paix. Je vais pousser ma paix. Vers le fond de la terre, j't'encaisse de ma peine. En équipe comme un
essentiel. Tu veux du goutti goutti, j'suis en monde d'échappée devant la boutique. La génada, mais bientôt j'fais tout niquer. Quoi, tu me crois pas?
Non, j'ai pas moi.
Fais-moi tourner, même si j'l'oublie après. J'aime quand tu fais les frais, j'aime bien quand tu t'appelles. Avec esprit, on échange immobilier, genre. Business, technique, splinter cell. Lunettes, fusion, ciné comme Scorsese. 2000, j'écoute Neptune sans Cortez. J'peux le faire encore, mais bon.
Chaud au ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du haut ciel.
Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais Kawasaki. 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Je viens d'encaisser ma paix. J'arrive tout de suite, classique, Gucci, flashy. Même du Versace, sous mon Versace. Gucci, flashy.
Gucci, flashy, Gucci, flashy.
L-A-Y-L-O-W, S-P-R-I-O-P-M-W. Jamais sans mon C-R-E-W, jamais sans mon C-R. Lambeau de Merce la go, tu me fais penser à elle. J'aime quand tu fais la go, comme les mannequins dans elle. C'est moi et mes assos, nous on contrôle la boîte. Le manifeste qui est la gauche, je vais le rentrer la droite, t'inquiète, ok. Sa bouche m'appelle, je sais même plus c'est laquelle. Elle fait vider ma paye, elle fait vider ma taille. Elle fait vider ma what, c'est une pussy like. Josiel, prête à s'envoyer comme une meuf Josiel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Viens d'encaisser ma paye.
Kawasaki, c'était Esprit Noir sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
C'est aux portes d'Aix en Provence, au pied même de Sainte-Victoire, qu'on devait découvrir un lieu de ponte où gisent des centaines de milliers d'œufs de dinosaures.
Nous avons la chance en Provence, grâce à des anomalies nouvelles de la coquille des œufs, d'avoir enfin des documents fossiles sur cette extinction. Les sections des œufs montrent qu'à un certain moment, chez certains œufs, la sécrétion de la coquille a été suspendue, puis qu'elle a reprise, et parfois le phénomène se produit non pas seulement une fois, mais deux fois, trois fois, et jusqu'à six fois.
Une archive de 1965 avec monsieur Duny, à l'époque conservateur du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, Thierry Tortosa. Vous nous avez justement apporté un œuf de titanosaure. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre trésor, s'il vous plaît? Parce qu'on l'a fait circuler dans les couloirs de la radio. C'est quand même.
Il y a même Hélène Philly qui est venue.
Très impressionnant.
Qui est venue nous voir.
Oui, alors. Il vient d'où cet œuf?
Alors cet objet fantastique, on pourrait dire, c'est bien donc un œuf de dinosaure qui provient de la réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire, qui est le lieu de découverte d'un certain nombre de fossiles depuis maintenant presque 60 ans. Et le témoignage qu'on entendait juste avant du conservateur du Muséum d'Aix témoigne donc de l'intérêt paléontologique sur ce type de découverte qui restait quand même déjà à l'époque assez unique au monde. Là maintenant, on en trouve un peu partout parce que ça se démocratise. Mm-hmm. Mais il fut un temps entre les années 50 et 70 où Aix-en-Provence était la capitale des œufs de dinosaures au monde et tous les scientifiques regardaient dans cette direction pour essayer de comprendre ce que révélaient ces fossiles. La réserve a été créée en 1994 pour les protéger justement et en fait un lieu d'études à ciel ouvert, qui est unique au monde.
Ouais. Alors, d'abord pour les auditrices et les auditeurs, on a mis la photo de cet œuf hein, sur la story Instagram de la Terre au Carré, si vous souhaitez aller voir la bête, à quoi ça ressemble, parce qu'on disait 6 à 9 kilos, il faut dire que c'est fossilisé, donc ça veut dire qu'on a cet œuf, que vous pouvez d'ailleurs nous décrire, qui est légèrement aplati, c'est ça?
Oui, alors il faut imaginer qu'au départ, c'était un œuf plutôt sphérique, qui est la taille d'un gros melon. Après, avec la compression des sédiments, il s'est fait un peu écraser. Et cet écrasement a provoqué des craquelures. C'est pour ça que l'on observe en surface tous ces craquelements qui ressemblent en fait à un œuf dur de poule qu'on aurait fait cuire et qu'on écraserait pour l'éplucher.
Voilà.
L'intérieur est rempli de terre, puisqu'en fait, en même temps que le fossile est écrasé, on a un remplissage de sédiments qui va combler le vide et du coup mouler l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas une crêpe totalement plate. On a encore un objet qui garde son volume. Et ce qui est intéressant sur ce fossile, c'est surtout la coquille. Alors, si on a de la chance, on pourrait trouver un embryon à l'intérieur. Ce n'est pas le cas, malheureusement.
C'est la question que tout le monde nous a posée dans les couloirs. Est-ce qu'il y a un embryon à l'intérieur?
C'est la première chose que l'on vérifie en général quand on trouve des œufs. Là, on a de la chance, c'est que cet œuf appartenait à un amas d'œufs. On pourrait considérer comme une ponte, mais je vais prendre un peu de précaution. Mais cet amas d'œufs avait livré des œufs qui étaient ouverts, enfin qui étaient en tout cas très fortement visibles sur l'intérieur, et donc on a très rapidement vu qu'il n'y avait pas d'embryon. Mm-hmm. Par contre, tout l'intérêt réside sur la coquille en elle-même, qui va nous livrer des informations nous permettant d'identifier ce fossile, plus ou moins précisément, et comprendre comment ces œufs étaient pondus. Ouais.
Géraldine Garcia, alors on a la chance d'avoir cet œuf avec nous, vous en avez eu beaucoup également, vous, entre les mains. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de ces œufs de dinosaures qui ont passé les siècles, les millions d'années jusqu'à nous, tout en étant conservés comme ça ?
Alors, on peut apprendre énormément de choses. Alors, tout d'abord, ces œufs que l'on a nommés mégalolithidés, en fait, sont très caractéristiques puisqu'ils possèdent au niveau de leur surface externe de nombreux tubercules, des petits mamelons qui avaient peut-être un rôle de fonction à travers en protégeant en fait les canaux aérifères. Donc ces œufs-là, à travers notamment l'étude de la coquille d'œuf, ont permis d'avoir énormément d'informations sur la physiologie des dinosaures, de voir également quelles pouvaient être les stratégies de reproduction. On les a utilisés aussi comme des marqueurs temporels, biochronologiques, afin de caler précisément les couches de la fin du Crétacé supérieur. Et on a pu comprendre aussi, à travers des analogues d'œufs comparables, quelles pouvaient être les relations d'échanges de certains groupes de dinosaures, notamment.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Par exemple, la femelle dinosaure pondait combien d'œufs ? Est-ce qu'on peut le savoir, ça, ou pas, Géraldine Garcia ?
Oui, alors tout dépend aussi à quel dinosaure, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes stratégies de nidification si on est un sauropode ou si on est un théropode.
Alors si on reste sur un titanosaure, comme ça, un grand herbivore par exemple, comme celui qu'on a là.
Les études qui ont été menées sur les aires de nidification montrent que en fait les œufs étaient regroupés sur des quantités qui peuvent être variables, mais on arrive quand même à des œufs qui peuvent, des nids qui peuvent atteindre jusqu'à une dizaine d'œufs à peu près, et qui sont organisés en monticules comme l'on peut avoir sur les œufs de crocodiliens ou de tortues actuels. Et tout ceci était recouvert de végétation pour permettre la couvaison.
Et ça durait combien de temps la couvaison ? Est-ce qu'on peut le savoir aussi ?
Non, on ne peut pas le savoir. Alors ça fait partie des objectifs que l'on avait, notamment à travers les marques de croissance, de développement, voilà, d'essayer d'estimer cette temporalité. Après, avec les modalités de nidification liée aux œufs embryonnés, voilà, on pourrait faire des estimations.
Vous avez trouvé des œufs avec des embryons vous-même, Géraldine Garcia, ou pas ?
Pas du tout. Et c'est une de mes frustrations. Alors, lorsque je suis intervenue en Roumanie, on a retrouvé des nids appartenant aux mégalolithidés qui comportaient à proximité des restes de juvéniles, mais rien à l'intérieur des œufs.
Thierry Tortosa non plus.
C'est
le Graal, hein, là.
Ouais. Mais ça, on l'explique comment ? C'est parce qu'il y a des conditions de conservation qui marchent pas, enfin, qui sont pas optimales. C'est pourquoi on trouve pas les embryons ?
Alors, tout à fait. Déjà, la grande majorité des œufs que l'on retrouve sont éclos. C'est-à-dire qu'ils ont bien fonctionné, les petits sont sortis, ont vécu leur vie et ont repondu à l'âge adulte pour perpétuer toute cette grande famille dinosaure pendant des millions d'années.
Ouais, voilà. Ouais.
Ensuite, c'est des problèmes soit de fécondation, soit de conservation. Fécondation, si nous avons des œufs clairs, comme le font aujourd'hui les poules, chaque matin, le fermier qui récupère un œuf dans le poulailler, si nous n'avons pas de coque avec une poule, la poule va pondre son œuf, et il n'y aura pas d'embryon à l'intérieur, donc pas de développement de petits. On peut imaginer que les dinosaures, qui sont quand même les ancêtres de nos oiseaux actuels, avaient déjà initié ce type de physiologie et voilà, de comportement. Ensuite, on a un problème de conservation, puisque en fait, entre le moment où l'œuf va se former dans le ventre de la mère et le moment où il va être pondu, la plus longue partie de ce temps concerne en fait un animal qui est mou. Le squelette n'est pas complètement ossifié, c'est très cartilagineux, et ces éléments squelettiques ne se conservent pas, voire très difficilement, ce qui fait qu'on a peu de chances d'avoir un squelette entier. Et à ça s'ajoute aussi la nature physico-chimique du sol. On est en milieu tropical à cette époque, donc on a du lessivage du sol avec des agents qui vont quelque peu dissoudre les éléments carbonatés dans ces œufs, ce qui fait que le peu d'éléments qui auraient pu se conserver auraient pu disparaître.
Mais alors, la maman titanosaure, là, qui mesurait peut-être 10 mètres de long, elle pesait combien exactement ?
Alors c'est très variable. Il faut savoir que nos titanosaures provençaux sont beaucoup plus petits que ceux qu'on va retrouver ailleurs dans le monde. Nous sommes sur des animaux qui sont en moyenne entre 10-15 mètres. C'est très rare d'avoir des plus gros spécimens. Donc on est sur des animaux qui font quelques tonnes, pas plus.
Voilà, enfin quand même, il y a quelques tonnes qui vont couvrir donc ces œufs dans un nid on imagine, sans casser les œufs.
On imagine difficilement un animal de cette taille venir s'asseoir sur le nid et le couver. On parle plutôt d'incubation naturelle, donc des nids qui seraient formés sous forme de tumulus avec une couverture végétale ou de terre qui va fonctionner comme en fait un animal qui viendrait couvrir. Donc comme le crocodile et les tortues actuelles.
Il n'est pas dessus, l'animal de la mer n'est pas dessus.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt chez les animaux.
Je suis rassuré.
Imaginez l'œuf tout écrasé. Question d'Elias, je me pose la même, Damien Boschetto. Comment on tombe sur un os? Enfin, vous êtes paléontologue amateur, mais est-ce que moi ou Mathieu, on se promènerait au même endroit que vous? On aurait vu le même amas, là, le même éboulement dont vous parliez. On aurait reconnu qu'il y avait des os déjà, et en plus des os de dinosaures.
Alors non, pas spécialement. C'est vrai que c'est assez délicat. C'est entouré d'une gangue très très dure. Et comme je le disais au départ, en général, on les voit quand c'est cassé. On voit une section, si vous voulez, une matière un peu spongieuse. Donc nous, avec l'expérience, on sait qu'on a affaire à des os. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas, il pourrait facilement passer à côté et prendre ça pour un caillou un peu spécial, certes, mais un caillou. Ouais.
Est-ce qu'on peut connaître le sexe de votre titanosaure, Damien Boschetto, ou pas?
Pas du tout.
Non. Et vous ne le saurez jamais, a priori ?
Probablement pas.
Bon. Allez, on se retrouve dans un instant. On a encore plein de choses à se dire sur vos découvertes. Et puis, on reste tout de suite dans l'Hérault.
France Inter. La Terre au carré.
C'est Camille Passauvert, il est 14h30.
Et je reviens aujourd'hui sur une autre découverte majeure qui fait briller les yeux des paléontologues, mais pas que. Un gisement fossile exceptionnel dont vous avez parlé il y a quelques jours, Mathieu, à Cabrières, dans l'Hérault donc. C'est au nord-est de Béziers. Un couple d'amateurs, Sylvie et Éric Monceret, habitués à crapahuter dans la Montagne Noire, site connu pour abriter des millions et des millions d'années de traces de vie, a déniché un coin fabuleux avec des centaines de fossiles vieux de 470 millions d'années et 470 millions d'années en arrière, c'est une période charnière. Écoutez les explications de Pierre Guériot, paléontologue à l'université de Lausanne et au CNRS.
On a une période un peu clé entre deux grands événements de l'histoire de la vie sur notre planète. On est juste entre ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, il y a à peu près 500-520 millions d'années, on a un peu tous les grands groupes d'animaux qui vont apparaître à peu près tous en même temps. Et puis une période un peu plus loin, à la fin de l'Ordovicien, plutôt il y a 450 millions d'années, où on va avoir maintenant la diversification du plancton et des écosystèmes qui vont ressembler beaucoup plus aux écosystèmes modernes.
Et là donc, on se situe pile entre les deux, et c'est inédit.
Ce sont des trésors qu'on pourrait considérer nous d'inestimables, parce qu'ils nous renseignent finalement sur une époque et sur des écosystèmes pour lesquels on n'avait aucune information auparavant.
Alors dans l'étude qu'il a co-signée dans la revue Nature, avec une vingtaine d'autres chercheurs, plus de 400 fossiles ont été identifiés, et le travail continue pour une centaine de fossiles supplémentaires.
On a des brachiopodes, qui sont des sortes d'organismes qui vivent dans des coquilles. On a de nombreux trilobites. Et puis, à côté de ces organismes qui résistent très bien à la décomposition, on a aussi des organismes qui présentent une fossilisation exceptionnelle d'organes mous ou de corps mous, parmi lesquels de nombreux vers, de différentes familles de vers, dont un avec même une fraction de l'intestin encore préservée. On a des algues aussi assez complexes. Et puis de nombreux arthropodes, avec typiquement des jolies petites carapaces d'ancêtres des crustacés, des sortes de petites crevettes, mais aussi des chélicérates, un groupe qui contient aujourd'hui les limules, les scorpions et les araignées. Et les fossiles qu'on découvre font partie des tout premiers représentants de ces groupes-là.
Et alors, on va s'attarder sur quelques éléments de cette liste. D'abord, si vous avez bien écouté, vous pourriez vous dire, il a bien parlé de crevettes et d'algues, là, dans la montagne. Et oui, parce qu'à l'époque...
On était vraiment tout proche du pôle sud. Donc, faut imaginer le sud de la France et ses jolis paysages de garrigues. La Montagne Noire, c'est très vallonné, mais sous l'eau et au pôle sud.
Et ça, c'est important à savoir parce que l'une des hypothèses concernant certains groupes qu'on pensait avoir disparu, s'être éteints juste avant, mais qui en fait existaient encore, c'est que...
Ils ont peut-être trouvé refuge dans des eaux plus froides parce qu'à l'époque, à la fin du Cambrien, au début de l'Ordovicien, il y a un réchauffement global de la planète, ce qui veut dire que les eaux tropicales où ces animaux peut-être étaient bien adaptés deviennent peut-être trop chaudes pour eux et la seule solution qu'ils ont finalement de s'en sortir au moins pendant un certain temps, hein, c'est peut-être d'aller se déplacer en suivant les eaux un peu plus froides, et du coup ils se sont retrouvés un petit peu en refuge au pôle sud.
Réchauffement au passage qui n'a rien à voir avec celui qu'on vit actuellement, hein, ça s'est fait sur des milliers voire des millions d'années, quand nous c'est même pas 200 ans à fond la caisse. Alors autre élément de la liste, vous avez entendu aussi les corps mous fossilisés, donc les algues et les vers, ça s'explique par des conditions exceptionnelles qui ont permis la minéralisation avant la décomposition, et aussi un bout d'intestin de ver. Donc
il y a plein d'informations scientifiques qui peuvent en être tirées. La forme de l'intestin, dans certains cas, est liée au régime alimentaire. Et puis, dans certains cas, on peut aussi avoir les restes du repas qui sont préservés à l'intérieur de l'intestin pour pouvoir après presque reconstituer les chaînes alimentaires. Parce que savoir, il y avait tel animal, telle plante, telle algue, c'est bien, mais de pouvoir un peu savoir qui mangeait qui, comment ces animaux interagissaient, on trouve parfois même des parasites. Donc tout ça, c'est des informations quand même assez uniques.
Enfin, un autre point sur lequel les paléontologues insistent, la forme sous laquelle les fossiles sont préservés peut contenir elle-même des informations sur les conditions à l'époque. Exemple,
le fait qu'on n'ait pas d'échinoderme. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'échinoderme à l'époque, ou est-ce que c'est parce que les conditions n'étaient pas favorables? On pourrait imaginer les échinodermes, les oursins, les étoiles de mer, ils ont aussi un squelette calcaire qui aurait très bien pu être dissous parce que les conditions de l'eau auraient permis leur dissolution, et donc en fait, on les retrouve pas.
Voilà, il y en a pour des années de travail à répondre à toutes ces questions. Continuez aussi l'identification, hein, il en manque. Et certains fossiles énigmatiques resteront d'ailleurs peut-être des mystères à jamais. En tout cas, ce n'est que le début, hein. L'équipe part là, à la mi-avril, faire de nouvelles fouilles sur place, en sachant que le lieu précis est gardé secret.
On a un peu peur des pilleurs, et essentiellement des gens qui viennent pas forcément piller pour avoir une jolie pièce du nouveau site dans leur salon, mais aussi qui peuvent peut-être être amenés à vouloir revendre des fossiles.
Plus utile dans des laboratoires pour la recherche et pour servir aux générations futures qu'au milieu de votre salon, disons-le.
Merci beaucoup Camille Cronier, on réécoute ça sur franceinter.fr.
Thierry Tortosa, c'est, vous parliez tout à l'heure aussi du fait qu'on a gardé ça secret avec Damien Boschetto, l'histoire du titanosaure secrète, pour qu'il n'y ait pas de pillage. C'est vraiment très fréquent ?
Oui. Il faut savoir qu'il y a un véritable marché noir qui se développe autour de la vente, la collecte de ces fossiles. En fait, c'est une question d'offre et de demande, et il est toujours intéressant pour certains d'avoir un bel os ou un bel objet à présenter dans son salon ou ailleurs. Et donc, du coup, certaines personnes sont prêtes à dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour des fossiles qui ne sont que du caillou au final. Donc oui, il faut investir dans la pierre, mais pas de cette manière-là. Et effectivement, la réserve, si elle a été créée en 94, c'était pour juguler, voire éradiquer cette activité de pillage qui existait depuis les années 40, enfin depuis les années 50 surtout, dans la vallée dans le secteur d'Aix-en-Provence. Ça a bien fonctionné, puisque la réserve naturelle, c'est au plus haut niveau réglementaire de protection juridique à ce jour, sur le territoire français. Mais voilà, on a quand même des missions de police pour surveiller.
Mais il n'y a pas au-delà du fait qu'il y a maintenant une zone spéciale, mais sinon, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire, si je me balade dans la nature, je trouve un os, j'ai le droit de le prendre chez moi?
Alors,
ou
non.
Je peux être poursuivi pour ça?
Il faut savoir que le propriétaire du fossile est le propriétaire du terrain. Donc ensuite, il faut passer des accords avec le propriétaire pour exploiter son terrain.
On est censé le signaler, quoi.
Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Il y a un vide juridique sur la paléontologie qui est très différent de la réglementation sur l'archéologie qui est bien cadrée. Donc aujourd'hui, c'est un peu le Far West en termes d'exploitation et d'études de ces fossiles. Donc on se base justement sur la communauté des amateurs, où on a des bons et des moins bons, qui vont nous permettre de partager leurs découvertes, et ensuite on valorise leur effort, et ensuite on essaie d'éduquer les autres pour avancer, surtout sauvegarder ce patrimoine qui est quand même très rare et très fragile.
Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages pour nous demander où voir la photo de l'œuf de titanosaure. Eh bien, vous allez tout simplement sur le compte Instagram ou Facebook de la Terre au Carré, et vous verrez en story, on vous a mis deux très belles photos de cet œuf pour que vous imaginiez un petit peu de quoi il s'agit. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette saga autour des titanosaures de l'Hérault.
Is always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remembered thing, for you live to regret that. Now you go front on me. Front on me.
Chasing the Bus, c'était Yaya Bey à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Les titanosaures étaient des méga-versions de pseuropodes, au long cou et à la longue queue, comme le diplodocus. Leur estomac, à lui seul, pesait le poids d'un éléphant. Alors, quel était le secret de leur taille de Goliath? Un titanosaure comme le Dreadnoughtus a une tête pas plus grosse que celle d'un cheval. Et cela parce qu'il ne mâche pas sa nourriture. Il se contente de la cueillir et de l'avaler.
Leur crâne n'est qu'un aspirateur à végétaux. Ils sont incapables de mâcher.
C'est ainsi que le titanosaure pouvait consommer plus de 2 tonnes de végétation par jour.
Un aspirateur à végétaux, Nat Geo, vidéo de 2019, pour parler donc titanosaure dans le sud de la France avec nos invités, les paléontologues Thierry Tortosa, Damien Boschetto et Géraldine Garcia. Damien Boschetto, encore une question sur votre découverte donc de 2022, donc ce géant titanosaure. Est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est un titanosaure?
Oui, à ce jour, on sait que c'est un titanosaure. Maintenant, on n'est pas encore capable de l'attribuer à une espèce connue ou savoir si c'est une nouvelle espèce. Donc ça sera les études à venir.
Et est-ce qu'il pourrait porter votre nom, ce titanosaure, ou pas?
Il pourrait, mais ça, c'est pas l'objectif. Alors, en général, on lui donne un nom attribué à des caractéristiques anatomiques ou même un lieu-dit, plutôt.
Titanosaurus boschetus, ça pourrait le faire. Patrick a une question pour vous, le prenez pas mal, mais il est étonné qu'un amateur, aussi doué soit-il, puisse procéder à des fouilles. Est-ce qu'il n'y a pas des déclarations à faire? Comment vous avez procédé?
Alors, on a une structure, on a une association, on travaille depuis 28 ans avec de nombreux paléontologues, et donc on a appris à travailler avec le milieu scientifique. On a bien sûr toute l'expertise de terrain. On est des amateurs éclairés.
Mais il n'y a pas des autorisations pour faire des fouilles vraiment
Alors bien sûr, on a des autorisations communales, au niveau des mairies, etc. Mais on fait vraiment un travail qualitatif. Hein. Aujourd'hui, on est capable de récolter la moindre information sur le terrain qui nous permet ensuite de tout étudier.
Thierry Tortosa, on parlait donc du département de l'Hérault. On évoquait aussi avec vous la réserve naturelle de Sainte-Victoire avec ce gisement 2 exceptionnel attribué au titanosaure. D'ailleurs, ce coin s'appelle Aix-en-Provence, très bon jeu de mots. Est-ce que c'est une terre fertile pour les dinosaures, la France, globalement?
Oui.
Par rapport à d'autres pays?
Totalement. La France est un pays du dinosaure, sauf qu'à la différence des autres pays, on est moins bon pour communiquer et valoriser nos découvertes et notre patrimoine. Mais on n'a pas à rougir de nos découvertes face à celles que l'on voit dans l'actualité quasiment quotidienne. On est un peu plus, voilà, un peu plus timide, je dirais.
Bon, mais... et donc en Provence, on se défend bien aussi, alors?
Oui, oui, oui. Après, ouais. Nous ne sommes pas sur les mêmes rythmes de communication que celui qu'on pourrait avoir dans notre pays. Déjà, entre les communications universitaires et les communications que l'on fait, nous, au sein des collectivités territoriales, c'est deux façons de travailler. Donc nous, on accumule beaucoup d'informations, on a énormément de fossiles qui ont été découverts depuis 20 ans, et on attend le bon moment d'avoir l'ensemble des informations pour pouvoir
mais faire. Mais est-ce que c'est toujours les gros dinosaures qui font parler d'eux? Est-ce que c'est pas un peu agaçant aussi, quelque part, pour vous qui êtes paléontologue?
Alors oui et non. Disons qu'en fait, plus c'est gros, mieux ça se vend médiatiquement, mais on a de très belles découvertes qui ont été faites et qui concernent des tout petits animaux, notamment des mammifères. Alors là, on n'est plus sur les dinosaures, mais des petits bouts de mammifères qu'on a découverts.
De l'époque des dinosaures?
De l'époque des dinosaures. On a parmi les plus complets pour certaines familles de mammifères très précises en Europe, qui ont été trouvés dans les Bouches-du-Rhône, sur deux sites différents.
Mais ils sont tout petits pour le coup, non?
Voilà, et là, ils sont très, très petits. Et on peut aller encore sur des gammes de taille encore plus petites, puisque le travail de détermination va de la macro, du macro reste jusqu'au micro-reste, puisqu'on fait aussi du tri à la binoculaire pour chercher des petites dents qui peuvent faire quelques millimètres. Et on a une faune insoupçonnée qui se cache parmi ces tout petits objets.
Mais c'est moins vendeur pour le public qu'un grand squelette de dinosaure de 10 mètres de long.
Et voilà. Vous parlez de vendre médiatiquement, mais bon, c'est la science à la base, donc il n'y a pas encore de publication scientifique pour cette découverte.
Il y en aurait une, donc méthodiquement, enfin dans le processus, on a la découverte sur le terrain, la préparation. Ensuite, on a toute l'étude scientifique qui prend beaucoup de temps, hein, parce qu'il faut comparer ça avec l'ensemble des données qui sont connues ailleurs dans le monde, se déplacer pour vérifier certains points qui ne sont pas forcément très clairs dans les publications d'ailleurs. Donc on va échanger aussi ces résultats avec les données des collègues. Et une fois que tout le travail est bien synthétisé, on soumet ça donc, dans une revue scientifique où l'on expose donc de la manière la plus synthétique possible les résultats de nos travaux.
Géraldine Garcia, vous qui êtes dans le Poitou, il faut aussi signaler quand même le site d'Angeac-Charente, hein, parce qu'il y a encore là aussi de très très grandes découvertes. C'est un des sites les plus connus au monde d'ailleurs pour les dinosaures. Hein.
Exactement, voilà, c'est un site qui est fouillé par mes collègues Ronan Alain et Romain Vulot, voilà, où on a retrouvé des restes notamment de sauropodes de grande taille également. Quoi. Mais plus localement, à l'échelle de la Vienne, nous avons un site alors, effectivement, sur un aspect médiatique, comme il est constitué de micro-restes de vertébrés, ce n'est pas voilà quelque chose qui peut être perçu comme fantastique. Par contre, nous avons, provenant de ce site, la plus belle diversité connue en Europe du Cénomanien, donc c'est-à-dire autour de 200 millions d'années, avec des formes d'eau douce qui étaient inconnues jusqu'à présent. Quoi.
C'est-à-dire
voilà, on a des restes de sélacantes, des restes également de salamandres, tout un cortège faunique de reptiles aussi, avec des reptiles volants, des tortues, des crocodiles. Et c'est un site constitué dans un karst, comme une cénote, le paysage que l'on retrouve au Mexique, où on a un effet de pouponnière. Présent avec des individus très petits, voilà, très jeunes et qui se maintiennent dans cet environnement-là.
Question de Nicolas qui demande à qui envoyer des photos si l'on croit avoir des fossiles. Et Claude nous donne un exemple. Lui, il a trouvé un œuf de dino, me semble-t-il, dit-il. Comment le faire expertiser, Damien Boschetto, est-ce que vous pouvez répondre?
Oui, tout à fait. Vous pouvez me l'envoyer via les réseaux ou même contacter d'autres scientifiques qui pourront vous éclairer sur le sujet. Oui.
Thierry Tortosa, pour compléter.
Oui, c'est tout à fait ça. En général, on conseille aux amateurs ou aux découvreurs occasionnels de partager rapidement leurs découvertes sans y toucher, pour ne pas perdre d'informations sur site, et donc se rapprocher de scientifiques, d'associations de paléontologues ou de muséums d'histoire naturelle, où on a du personnel totalement qualifié pour répondre à ces questions.
Damien Boschetto, comme lorsque vous, à 23 ans, on découvre donc un herbivore géant, est-ce que cette découverte a changé votre parcours, même si vous étiez paléontologue amateur, mais est-ce que ça a été vraiment un revirement de situation dans votre vie?
Oui et non, oui, parce que j'envisageais depuis quelque temps de me plonger entièrement à la paléontologie, donc de reprendre des études supérieures. Ça faisait quelque temps que j'y pensais.
Oui.
Et donc c'est vrai que cette découverte et puis tout un tas de choses autour ont fait que voilà, je vais essayer de me lancer dans un master en paléontologie pour étudier justement ce nouveau gisement. Ça sera le sujet pour potentiellement même ce titanosaure. Donc ça sera le sujet de mon
mémoire. Mais vous avez un laboratoire au sein du musée de Cruzy, c'est ça, où vous pouvez travailler justement sur votre découverte.
C'est ça. Donc à savoir qu'on a on a un petit peu tout le matériel qu'il faut. On a un laboratoire à disposition, tout le matériel pour travailler, préparer et étudier tout ça.
Et le public, quand est-ce qu'il pourrait voir ce titanosaure?
Ah ouais, il y a justement Jordan qui veut savoir que va devenir ce squelette.
Voilà, donc ce squelette sera exposé. Donc on a aussi un musée à Cruzy depuis plus de 50 ans, donc où sont exposés beaucoup de restes. Et donc à ce stade-là, les restes sont encore en préparation au laboratoire, mais le musée est ouvert le samedi et on fait en général des visites du laboratoire en cours de préparation sur ces squelettes, qui offrent déjà un bel aperçu de pièces préparées, donc de queues, de coups entiers. C'est assez intéressant.
Thierry Tortosa, il faut rappeler que ce soit la Provence, l'Hérault ou les Charentes, tout ça c'était une zone tropicale, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut se remettre dans le contexte environnemental de l'époque. Les dinosaures, ils évoluaient dans des lacs quasiment à l'époque. Hein.
Oui, alors pour la Charente, c'est un peu différent, puisqu'on est sur des périodes de temps beaucoup plus en reculé. Mais en tout cas, entre l'Hérault et le Bouches-du-Rhône, nous étions sur un même écosystème insulaire. À l'époque, le sud de la France et le nord de l'Espagne constituent une grosse île. Et cette île était dans un archipel constitué d'autres îles un peu partout en Europe. Et donc, nous avions des faunes de dinosaures et aussi d'autres animaux qui évoluaient sur cette île et qui...
Avec des eaux chaudes, donc. Hein.
Avec des eaux chaudes, oui. Donc, on était à la position du Maroc actuel, donc environ 30e parallèle, et avec un climat tropical, tantôt sec, tantôt humide, en fonction des saisons. Alors à la fin du Crétacé, ça devient de plus en plus sec, on a des épisodes même de semi-aridité qui se prononcent, et donc à l'occasion de grosses pluies, probablement de type mousson, on va voir des montées d'eau, des crues assez importantes, qui vont venir inonder des plaines d'inondations, dans lesquelles ensuite les dinosaures vont venir pondre leurs œufs. Et c'est pour ça que ces écosystèmes sont très favorables à la conservation de fossiles en grande quantité.
Géraldine Garcia, qu'est-ce qui explique le gigantisme d'ailleurs, par exemple, de ces sauropodes là, absolument incroyables en taille et en poids? Est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu cette météorite qui a vraiment sonné la fin du règne des dinosaures, on aurait pu avoir encore des individus qui auraient grandi?
Non, justement, on constate, alors c'est quelque chose que l'on compare avec d'autres modèles analogues comme au sein des mammifères, voilà, vous le voyez au niveau des cétacés, on peut aller vers cette forme de gigantisme, mais là, dans un contexte d'archipel d'île, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que l'on va être amené, lié à des contraintes géographiques notamment, à avoir des formes de plus petite taille. Donc on retrouve des titanosaures comme en Roumanie, qui était beaucoup moins important, qui faisait moins d'une dizaine de mètres et qui était moins important en taille que leur homologue européen.
Mais au-delà de la géographie, est-ce qu'il y a des limites physiques ?
Oui, je pense qu'il y a des limites physiques, mais à la fin du Crétacé, de toute façon, au-delà de ce contexte, on voit qu'on a atteint un seuil à un moment donné, à la fin du Jurassique et au début du Crétacé, et l'on va à travers les titanosaures vers des formes qui sont de moins grande taille que leur homologue de type Diplodocus ou Brachiosaure.
Une question de Virginie qui voudrait savoir combien il y a d'espèces de titanosaures.
Alors c'est une question délicate, puisqu'en fait, il faut être d'accord déjà sur la validité de certaines espèces et de certains genres. On va surtout parler des genres, puisque les espèces, c'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, on en a un peu plus d'une centaine, donc ce qui est énorme. C'est-à-dire une centaine de genres à travers la planète, puisqu'on en trouve sur tous les continents.
Et uniquement titanosaures.
Uniquement titanosaures, oui. Voilà, donc les derniers comptages, c'était environ 110. Voilà.
110 genres, mais espèces, on peut pas
alors,
dire.
Alors, la plupart des genres sont monospécifiques, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule espèce qui est attribuée. Après, pour certains d'autres, comme le titanosaurus, ce genre-là, qui était en fait ce qu'on appelle un taxon poubelle. À une certaine époque, tout ce qu'on trouvait de gros qui datait du Crétacé, on le mettait dans ce genre. Voilà. Par la suite, ça a été déclassé, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'informations pour le garder valide. Et là, on avait presque une dizaine d'espèces pour ce genre-là. Donc, il faut prendre en compte.
Géraldine Garcia, vous souhaitiez réagir aussi?
Oui, en fait, il y en a une trentaine de genres à peu près qui nécessiteraient vraiment une révision. Et à l'échelle européenne, on est sur six taxons valides.
En fait, tout ce que ça dit, tout ça, c'est quand même la diversité gigantesque aussi du monde des dinosaures. Hein, parce qu'au-delà même des titanosaures, ça fait un nombre d'espèces incroyable quand même. Géraldine Garcia.
Alors, il y a un nombre d'espèces considérables, effectivement, mais la notion d'espèce paléontologique n'est pas la même que la notion d'espèce biologique. Donc, en fait, c'est à travers des caractères de forme, des caractères morphologiques, que l'on va être amené à définir ce qu'est un nouveau genre ou une nouvelle espèce.
Allez, on fait une petite pause avec Daphné, où va Lila Jane, et on se retrouve juste après sur France Inter pour ce dossier dinosaure. C'était Daphné sur France Inter, dossier titanosaure avec nos invités cet après-midi. Géraldine Garcia, vous qui êtes en duplex de France Bleu Poitou. Parlez-nous aussi de vos découvertes à vous, parce que vous avez à votre actif deux beaux spécimens, au moins, de titanosaures. Hein.
Oui, effectivement. Tout à l'heure, on parlait de six taxons valides à l'échelle européenne. Eh bien, on en a deux qui proviennent également de la Provence, sur le site de Velo, où on a le dinosaure Tsigane, un Tsiganosaurus velociensis, et le titan des Garrigues, Garriga titan. Meridionalis. Voilà, donc ce site a été exploité à travers trois campagnes de fouilles qui nous ont permis de collecter un peu plus de 500 pièces, et une centaine correspondait donc à des titanosaures qui nous ont permis de mieux de comprendre et de définir donc ces deux taxons. Et aujourd'hui, on arrive avec deux classes de taille de sauropodes sur ce site, qui se partageaient les mêmes écosystèmes, et qui nous amène à vraiment réfléchir sur la structuration des populations et des relations comportementales, notamment alimentaires. Voilà, probablement, donc, ils occupaient des niches écologiques différentes, mais sur un même environnement, un même écosystème.
Donc, dans les Bouches-du-Rhône, cette découverte. Oui, oui. Pas trop de compétition entre les individus, quand même?
Probablement.
Si.
Probablement, oui. Si, parce que bon, avoir deux animaux de cette taille-là sur un même environnement aussi contraint, effectivement, ouais. Lié au fait que, sur les mêmes niches écologiques, ils rentrent en compétition.
Ouais. Camille, pour terminer, il nous reste 50
Allez,
secondes.
Allez, un tout petit message de Patrice qui dit que pour un petit peu mieux faire connaître les dinosaures, il faudrait peut-être envisager de présenter des spécimens comme ça en permanence dans une immense serre sur une place publique et dit que ça aurait de la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ou dans un muséum aussi, hein.
Oui, je dirais que c'est plutôt le rôle
mais
des
musées. C'est moins visible directement.
Oui, mais après, c'est des volontés politiques. On a la chance quand même, dans les Bouches-du-Rhône, d'avoir des collectivités qui mettent en avant ce patrimoine à l'occasion d'événements ou d'expositions. Mais en attendant d'avoir des serres, voilà, on peut voir des salles d'exposition.
C'est déjà bien.
En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Et Damien Boschetto, quand même, encore félicitations pour cette découverte, donc en 2022, de ce grand herbivore titanosaure, donc dans l'Hérault. Merci beaucoup à vous, Thierry Tortosa, d'être venu avec votre œuf de dinosaure.
Merci.
On peut voir donc en story sur le compte Instagram de La Terre au Carré. Merci à vous également, Géraldine Garcia, aux équipes de France Bleu Poitou et France Bleu Hérault. À bientôt.